Aujourd'hui, donc, c'est le dernier message sur notre série sur la famille. Ce matin, je vais parler d'un thème qui contribue vraiment au bonheur de la famille. Si vous enlevez cela, c'est le bazar. Ce thème, c'est la discipline. Bizarre de parler de discipline ce matin, n'est-ce pas? Alors, parler de famille remplie de l'esprit. Que vous rappelez des sujets qu'on a abordés ensemble? Le premier, c'était... Comment? Non, ça c'était le deuxième, mais vous êtes pas mal. C'est l'harmonie du couple. L'harmonie du couple était le deuxième message. Le premier, c'était... C'était affiché juste avant. Une famille remplie de l'esprit. Tout commence par nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin qu'il nous remplisse de son esprit. Deuxièmement, donc, oui, l'harmonie du couple. Et pour nous, c'était clair. Une famille épanouie, en bonne santé, c'est avant tout un couple en bonne santé. Tout commence là. Et troisième, la transmission de la foi. Voilà. Donc voilà, et là, on était un peu plus large sur la transmission de la foi, puisqu'en fait, quand on parlait un mois sur des familles remplies de l'esprit, on pense famille-église et aussi les familles qui composent l'église. Et donc, maintenant, la discipline. Aïe, 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 ça va chauffer. Alors, ça peut paraître bizarre de dire que la discipline contribue au bonheur d'une famille. Et pourtant, si la discipline n'existait pas, tout le monde vivrait comme il veut, sans faire attention aux lois, au respect des autres, et sans être sanctionné ou puni pour des fautes, voire des fautes graves. Heureusement que la discipline existe. Vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible, nous remarquons que Dieu lui-même pratique la discipline. Et puis, les croyants aussi doivent pratiquer la discipline dans leur propre vie. Ça, c'est surprenant, mais il y a ce premier point, dans notre propre vie. Ensuite, dans notre famille, leur famille de sang. Et ensuite, dans l'Église, leur famille spirituelle. Alors, qu'est-ce que la discipline? Allons-y. Alors, je vous propose une définition avant d'arriver là-dessus. C'est déjà ce que ce n'est pas. Alors, je ne parle pas ici de discipline comme des matières d'enseignement dans une école, ni de la discipline dans le travail, ni des disciplines spirituelles comme la lecture de la Bible, la prière, etc. Je parle d'une autre discipline. La discipline dont je parle vise le mauvais comportement, pas une personne. Voici la proposition de définition. La discipline, c'est mettre en lumière un mauvais comportement, mettre en garde en avertissant, et cela peut amener à corriger en vue d'un changement. Mais attention, nous ne pouvons pas parler de discipline biblique sans parler d'amour, n'est-ce pas? C'est toujours dans un climat d'amour et dans des motivations d'amour que nous pratiquons la discipline. Donc, je vais beaucoup parler de la discipline, mais gardons en tête que c'est l'amour. C'est dans un climat d'amour et aussi dans des motivations d'amour. La Bible n'encourage jamais la discipline sans amour. Quel est le but de la discipline? La discipline vise le changement de conduite pour plaire à Dieu. Changement de conduite, plaire à Dieu. Pour ce faire, la discipline implique plusieurs choses. Demander pardon à Dieu pour notre mauvais comportement, changer de comportement, rétablir une relation par le pardon et la réconciliation, on pourrait dire en un mot, sainteté, se maintenir dans la sainteté, dans la paix dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Alors prenons le temps de voir ce que la Bible dit sur le Dieu qui discipline. Ensuite, nous verrons les trois différentes disciplines que j'ai mentionnées il y a quelques instants. Dieu est un Dieu qui discipline. Okay. Mais pourquoi? Vous avez déjà la réponse. Parce qu'il est saint. La sainteté faire partie du caractère de Dieu. C'est ce qu'il est. Cela ne peut pas changer chez Dieu. Il est saint. Il n'y a en lui aucune trace de péché. Il est totalement séparé du mal. Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas prendre plaisir au péché. Il le déteste. Il l'a en horreur. Il ne peut pas supporter le mal. Cela le répugne, suscite en lui haine, dégoût, colère. Dieu est parfaitement saint. Et la Bible dit dans Habacuc, chapitre 1, verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour accepter juste de voir le mal. » Dieu discipline aussi parce qu'il nous aime. La Bible dit dans 1 Jean 4, 8 que Dieu est amour. L'amour fait aussi partie de son caractère. Il agit toujours avec amour envers nous, même si cela peut paraître contradictoire parfois dans les difficultés que nous vivons au quotidien, qui pourraient nous faire croire le contraire. Dieu est amour. Mais quand nous sommes dans nos difficultés et que nous prenons un peu de temps pour comprendre le plan de Dieu depuis bien avant la création, sa manière d'agir dans le monde et dans l'histoire et le salut qu'il offre par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous arrivons à la conclusion que Dieu est amour. Les circonstances difficiles ne contredisent pas cette pensée. C'est la sainteté et l'amour de Dieu qui le pousse à discipliner ses enfants pour qu'ils se détournent du péché, pour trouver toute leur joie en lui. Voyons maintenant comment Dieu discipline. Le temps nous manque pour faire le tour de ce sujet, donc je vais donner quelques éléments. Si vous lisez l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, avant la venue de Jésus-Christ, vous êtes obligé de tomber de nombreuses fois sur Dieu qui discipline le peuple d'Israël qu'il a choisi. C'est un peuple qui tombe souvent dans le péché, dans l'idolâtrie, donc il rejette Dieu pour adorer d'autres dieux. Et Dieu est comme un père qui les corrige pour les ramener à lui. Alors comment il le fait? Assez souvent, il avait une manière de faire. Vous vous rappelez? Comment Dieu corrigeait-il son peuple? Vous êtes là? En envoyant carrément des ennemis. Hein? Et donc là, ils étaient carrément assujettis à un autre peuple. Et assez souvent, on retrouve ce même schéma. Un texte dans le Nouveau Testament dit ceci dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 6. C'est très clair. « Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Donc si vous êtes de véritables enfants de Dieu, normalement, vous vivez une certaine correction de Dieu de temps en temps. Ça fait partie de sa manière d'agir avec ses enfants. Ce texte est très clair. Dieu corrige ses enfants qu'il aime. Le mot grec pour châtiment signifie l'éducation d'un enfant. Il inclut l'instruction aussi bien que la discipline, la mise en garde aussi bien que la correction. Donc faut garder les deux en tête. Dans ce passage, le châtiment ne signifie pas simplement une correction pour avoir mal fait, mais une formation au travers de la persécution. Dans le texte, on peut penser à cela. Donc persécution ou difficulté ou souffrance de la vie. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Dieu se sert des épreuves pour former le caractère des croyants. Et il corrige les croyants comme ses fils et ses filles pour qu'ils participent à sa sainteté. Nous avons besoin que Dieu agisse d'une manière ou d'une autre pour des fois mettre des feux rouges devant notre nez, pour nous reprendre par un frère, par des personnes qui ne sont pas du tout croyants. Il nous reprend de mille et une manières. Et il peut aussi permettre, oui, par les épreuves, de nous mettre des panneaux qui nous indiquent « Attention Manu, attention, stop, tu fais fausse direction, il faut que tu changes. » Ce n'est pas simple à comprendre, mais nous devons nous rappeler que même les difficultés que nous rencontrons peuvent être une preuve de l'amour de Dieu pour nous. Là, est-ce qu'on peut dire un amen là-dessus ? Même les difficultés que nous rencontrons peuvent être des preuves de l'amour de Dieu pour nous. Deux choses à souligner, je pense, c'est important. Dieu ne se plaît pas à corriger. Dieu souffre quand ses enfants souffrent. Et dans Lamentations 3, versets 32 à 33, il est dit ceci sur Dieu. « S'il l'afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. » Et écoutez la suite. « Ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les humains. » Et le texte est en train de dire qu'en fait, il le fait aussi de manière générale pour les humains, pour les attirer à lui. Deuxième chose à souligner, Dieu ne corrige pas au-delà de ce qui est nécessaire, ni de ce que nous pouvons supporter. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, alors ce texte ne parle pas directement de discipline de Dieu, mais on peut l'utiliser parce que cela nous éclaire sur sa manière d'agir. Les tentations, alors assez souvent j'ai mis « ou épreuve », mais en fait le mot grec utilisé peut être utilisé pour tentation ou épreuve. Donc c'est pour ça que vous verrez entre crochets à chaque fois « ou épreuve ». Donc je lis le texte. « Les tentations ou épreuves qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. » Ah, ça fait du bien d'entendre ça. « Au moment de la tentation ou de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Dieu est avec nous dans la tentation ou l'épreuve. Il ne permet pas que nous soyons écrasés sous le poids de nos épreuves, même si on pourrait tous le dire peut-être que nous avons vécu des moments où nous nous sentions écrasés par l'épreuve ou la tentation. Mais Dieu dit que Dieu lui-même ne permet pas que cela soit au-delà de nos forces. Mes amis, Dieu est un Dieu qui discipline. Il agit ainsi pour le bien de ses enfants, pour leur bonheur et pour qu'ils trouvent en lui toute leur joie. Dieu exerce lui-même la discipline et il attend de nous que nous l'exercions aussi. Alors voyons maintenant trois domaines dans lesquels Dieu veut que nous exercions la discipline. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on va prendre chaque point tranquillement. Premièrement, la discipline dans notre propre vie. Et un texte nous dit ceci, donc Matthieu, chapitre 5, dit ceci, « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Fin de citation. Jésus-Christ, ici, nous invite, on pourrait dire, à une autodiscipline dans ce texte. Si une personne sait que quelqu'un a quelque chose contre lui, il doit régler cela le plus rapidement possible. La discipline que la personne s'applique à elle-même, c'est de ne pas donner son offrande avant d'avoir réglé sa situation avec son frère. C'est très fort. Et pourquoi ? Parce que Dieu n'accepte pas l'hypocrisie. Il n'accepte pas l'offrande d'une personne qui est en conflit. Dieu n'accepte pas non plus la belle louange que nous pouvons lui donner le matin, pendant qu'en fait, au fond, nous sommes en froid avec notre prochain. Et combien de fois j'entends des personnes qui aiment mélanger Dieu et le péché. Dieu est contre de telles attitudes. Et Dieu attend de nous que nous puissions vivre dans la sainteté. Dieu veut avant tout que nous soyons en paix dans nos relations et que nous exercions le pardon et recherchions la réconciliation. Voilà un des exemples dans la Bible, j'aurais pu donner encore d'autres, qui nous montrent que nous devons exercer, d'une certaine manière, une discipline dans notre propre vie. Si nous sommes tombés dans le péché ou dans un conflit avec un croyant, nous devons le plus rapidement possible demander pardon à Dieu, changer de conduite, vivre le pardon et rechercher la réconciliation. je dis bien rechercher la réconciliation, puisqu'il arrive qu'en recherchant la réconciliation, la personne ne veuille pas. Donc si je disais se réconcilier, ce serait pas juste, puisqu'il faut que ce soit les deux qui puissent le vivre. Mais nous devons rechercher cela, la réconciliation. Mes amis, apprenons à veiller sur nous-mêmes pour plaire à Dieu. Sachons nous discipliner nous-mêmes quand cela est nécessaire. Et le plus rapidement possible, demandons pardon à Dieu, changeons de conduite et rétablissons nos relations. Deuxièmement, la discipline, je dis dans notre famille de sang, hein, dans le sens pas spirituel, mais notre famille, nos frères et sœurs, etc., nos enfants. Donc j'arrive sur un terrain miné, parce qu'il y a tellement de débats et de points de vue différents sur ce sujet. Je n'ai pas prévu les boucliers, etc., mais j'aurais pu. Quand on parle de discipline, plusieurs pensent tout de suite à la fessée. La main, le bâton, la cuillère en bois, le martinet. Certaines personnes pensent que les châtiments corporels comme la fessée sont la seule méthode prônée par la Bible. Et j'ai entendu dernièrement qu'une personne disait, en parlant de la verge, du bâton, ce n'est que 1% de l'enseignement biblique sur l'éducation des enfants, sur la discipline. D'autres insistent que les privations et autres formes de punition qui n'impliquent pas de châtiment corporel sont bien plus efficaces. Donc vous mettez ces deux groupes-là. Vous savez, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 novembre 2018, l'Assemblée nationale a voté en faveur de la loi interdisant la fessée et toutes les autres violences éducatives ordinaires. Ordinaires. Donc, plus de violences éducatives ordinaires. Et je ne sais pas si la fessée est déjà définitivement interdite en France. Est-ce que quelqu'un peut dire que ça... Parce que le vote a été fait, mais quand j'ai regardé, ça ne disait pas que c'était définitif pour l'instant. Ça a été voté, d'accord. Donc, ça a été voté, c'est clair. Donc, maintenant, c'est définitif. Définitivement interdit en France. Si ce n'est pas encore... Enfin, en tout cas, les parents qui sont à fond pour la fessée, en entendant une telle loi, se disent « Mais comment on va faire ? Je suis perdu !» La moindre chose que... Mon fils ou ma... Bang ! Ça part. C'était si facile, maintenant je fais comment ? Il n'y a pas que la fessée, les amis. Il est vrai que la parole de Dieu parle de la fessée, très clairement. Et c'est bien de voir quelques textes sur le sujet. Proverbe 22, 15. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Les coups de bâton, autre texte, et les réprimandes produisent la sagesse. Mais un enfant livré à lui-même fera la honte de sa mère et de son père. Proverbe 22 nous dit que, et c'est important de le souligner, que les enfants ont tendance à faire des bêtises, des actions qui ne sont pas raisonnables. Et cette tendance chez eux est ancrée dans leur cœur parce qu'ils sont pécheurs, tout simplement, et qu'ils ont besoin d'apprendre à faire le bien. Bien plus, ils ont besoin, tout simplement, de Jésus-Christ pour les sauver du péché. Selon la Bible, une discipline corporelle, appropriée, retenue, modérée et surtout pleine d'amour est une bonne chose pour l'enfant et contribue à son bien-être et à sa bonne éducation. Mais un enfant ne doit jamais recevoir un châtiment corporel au point d'en subir des dommages physiques. La discipline doit avoir pour fin le bien de l'enfant et ne doit jamais servir d'excuse à l'abus ou à la maltraitance, ni être pratiquée pour soulager sa propre colère ou frustration. Ça, vous le savez très bien, c'est très, très, très grave. Bon, la parole de Dieu nous dit de respecter les autorités. Si une loi nous interdit de pratiquer la correction corporelle, il me semble juste d'arrêter cette pratique. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres moyens de discipliner un enfant. Si on n'avait plus rien, on pourrait comprendre que là, ça nous met en difficulté. Mais il y a d'autres moyens. On parle de réprimande, mais on parle de punition, de privation, etc. Et peut-être qu'on pourrait, si on prenait le temps de voir comment chacun est fait, on aurait toute une liste, n'est-ce pas? Mais sans oublier, et ça, il ne faut surtout pas l'oublier, de parler avec amour à l'enfant pour qu'il comprenne son mauvais comportement et pour que nous prenions le temps nécessaire pour qu'il change. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans l'éducation, dans la discipline. Dans certaines cultures, la mienne par exemple, les Antillais, mais il y en a d'autres, hein, je fixe juste une culture, mais dans cette culture, on peut avoir cette tendance à donner vite la fessée, mais on ne sait pas pourquoi on a reçu la fessée. Hein ? On a fait une bêtise, ou peut-être on ne sait pas ce qu'on a fait, mais bang, ça part. Et vous ne savez pas pourquoi vous avez reçu, mais vous l'avez reçu. Donc j'insiste. Dieu lui-même insiste sur l'enseignement, nous verrons cela tout à l'heure. Maintenant, devant cette loi contre la fessée, chacun fera en fonction de sa conscience devant Dieu. Parce que peut-être qu'en m'entendant, vous dites, mais moi je ne suis pas d'accord, etc. Ça, chacun sa conscience devant Dieu. Mais l'important, ce n'est pas de donner ou non la fessée, mais de trouver des moyens qui aident notre enfant à se détourner du mal pour faire le bien. La discipline que nous pratiquons doit être comme un tuteur pour une plante. J'entendais cela hier en parlant avec Nicolas Rinderknecht qui parlait de la loi. Je vois bien cela pour la discipline. Le tuteur pour une plante l'aide à bien pousser, grandir et s'épanouir. De même, notre but est d'aider notre enfant à bien grandir et s'épanouir, tout simplement. Voici un texte très utile pour nous, Éphésiens 6, verset 4. « Vous, pères, je pourrais ajouter mères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Ce texte nous dit que les parents ne doivent pas exaspérer, dans d'autres traductions, irriter leurs enfants. Et nos traductions disent « par une sévérité excessive ». Donc, parents, quand nous corrigeons nos enfants, faisons attention à la colère. Les enfants peuvent très facilement nous pousser à la colère. Ça, c'est très facile, n'est-ce pas? Pas besoin de décrire cela. C'est quelque chose, et en plus, de normal. Mais ne laissons pas notre colère se déverser, se déchaîner sur nos enfants. C'est très, très, très grave. Attention aussi aux paroles destructrices. Tu es un imbécile, tu es nul, etc. Ça peut paraître bête de rappeler cela, mais il y a tellement de parents qui tombent dans de telles paroles négatives, mauvaises, pensant qu'en agissant ainsi, leur enfant sera plus obéissant. Sachez que des paroles mauvaises ne construisent pas l'enfant, mais le détruisent. Et peut-être vous avez vécu une éducation comme cela. Mais si vous regardez bien, vous combattez encore avec des mauvaises pensées, avec certaines choses qui ont détruit votre estime de vous-même. Dans Éphésiens 6, nous avons trois mots importants. J'aimerais que nous prenions le temps de les relever. Élever, éduquer et conseiller. Ces trois mots sont tellement riches. Élever, éduquer et conseiller nos enfants, ça commence par les nourrir, les protéger et prendre soin d'eux. C'est aussi enseigner par notre exemple. Notre exemple. Parents, nous ne le dirons jamais assez. Soyons des modèles pour nos enfants. Soyons des modèles pour nos enfants. C'est aussi les former, les guider, les amener à leur plein développement physique et moral. Leur apprendre à vivre, les réprimander pour qu'ils apprennent à se détourner du mal et à faire le bien. Le texte ajoute « d'une manière conforme à la volonté du Seigneur ». Cela veut dire que nous devons chercher à faire ce qui plaît à Dieu dans notre manière d'éduquer nos enfants. Je parlais tout à l'heure de culture. Attention à notre culture, elle n'est pas mauvaise en soi. dans le sens qu'il n'y a pas tout qui est mauvais dans une culture. Mais Dieu doit transformer notre culture. Pas dans le sens que d'un coup, il dit stop à la culture et maintenant c'est Christ. Non, je n'ai pas dit ça. Dieu est pour la culture. Mais il y a des choses mauvaises qui ont besoin d'être transformées. Et donc, attention à ce que nous avons reçu aussi de nos parents, puisque nous avons tendance à dire c'est ça la bonne éducation. Ou si c'était très mauvais, on est dans l'excès inverse. Et on est tellement dans l'excès inverse qu'on passe à côté de ce que Dieu veut vraiment. Nous devons regarder ce que la Bible attend de nous. Et c'est ça, en fait, de faire les choses d'une manière digne, conforme à la volonté du Seigneur. Je crois que la meilleure façon de faire la volonté de Dieu dans ce sujet de la discipline dans la famille, c'est de prêcher l'Évangile à nos enfants. Prêchons l'Évangile tout le temps à nos enfants, de bébé à... Qu'est-ce que je veux dire par là ? S'ils ont un mauvais comportement, ils ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils sont pécheurs, c'est-à-dire d'être des personnes qui sont enclins au péché. Qu'ils ont besoin sans cesse du pardon de Dieu, de sa grâce, et d'être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Il faut qu'ils entendent tout ça, tout le temps, de notre bouche. Parce que nous, chrétiens, je pense qu'on peut avoir cette tendance à oublier ça et être juste en mode « il faut faire le bien et pas faire le mal ». Mais attention, ce n'est pas la loi qu'il faut présenter tout le temps à nos enfants, mais ça, la loi est la grâce. Et c'est la grâce qui transforme nos vies, pas la loi. Le plus grand besoin d'un enfant, c'est de connaître Jésus-Christ, d'admirer notre précieux Seigneur et Sauveur que nous aimons tant, Jésus-Christ. Parlons de lui à nos enfants afin qu'ils soient touchés et transformés par lui. Nos enfants doivent comprendre que s'ils doivent se détourner du mal et faire le bien, c'est parce qu'ils sont tellement aimés de Dieu. Donc, prenons du temps pour les amener à comprendre l'amour de Dieu pour eux. Prions pour nos enfants. Prions avec nos enfants, en mentionnant leur combat pour qu'ils sachent ensuite prier afin de les amener à faire plaisir à Dieu. Quand je dis cela, c'est prendre notre enfant avec nous et dire, tu as mal fait là. Et peut-être, voilà, comme vous le faites à la maison, peut-être vous faites une punition, voilà, tu restes un moment dans le coin. Mais au moment où vous revenez devant l'enfant, il faut lui prêcher l'Évangile. Tu sais ce que tu as fait ? Papa aussi, avant, quand il était plus petit, il faisait aussi le mal. Il faisait des bêtises aussi. Et donc, je suis comme toi. Mais j'ai appris à faire le bien. Et une chose, c'est que mon papa aussi est pécheur, tout comme toi. Et nous avons besoin de Jésus-Christ. Et donc, de prendre le temps d'éduquer notre enfant ainsi et de l'amener ensuite à prier pour cela. Maintenant, moi, mon enfant, par exemple, je pense à Noé. Noé, maintenant, on va prier ensemble pour que Dieu t'aide à ne plus faire ceci ou cela. Et je prie avec mon enfant. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je lui montre plein de choses, là. Je lui montre comprendre l'Évangile et l'appliquer à sa propre vie d'enfant. Et je l'amène aussi à comprendre que la relation à Dieu, là, doit être automatique quand nous voyons notre péché. Demander pardon à Dieu et demander son secours. Nos enfants doivent comprendre qu'ils sont aimés de Dieu. Et nous devons prier pour eux, combattre avec eux et auprès d'eux. Et donc aussi à gérer leur fragilité, leurs mauvais traits de caractère, leur mauvaise humeur. Acceptons aussi nous-mêmes leur mauvaise humeur, leur caractère difficile. Parce que quand nous n'acceptons pas, eux n'accepteront pas non plus le leur. Et ça ne va pas les aider dans leur estime d'eux-mêmes. Ils ont besoin de nous pour gérer ça. Non, arrête de pleurer, tu es tout le temps en train de pleurer quand on est là. Mais oui, mais comment je fais, papa ? Ça, il ne me le dira pas. Mais moi, je lui dis, c'est comme ça, il faut que tu fasses comme ça et puis c'est tout. Non, il a besoin de savoir, mais comment, papa, je dois faire pour faire ce que tu me demandes ? Et là, je suis fragile, j'ai une tendance à pleurer quand il y a ça ou ça. Comment je fais ? J'ai besoin que tu m'apprennes à gérer cela. Montrons-leur comment... que nous-mêmes, nous sommes aussi pécheurs. Et sachons leur demander pardon quand nous leur avons fait du mal, pour qu'ils apprennent à leur tour à vivre le pardon et la réconciliation dans toutes leurs relations. Combattre à leur côté, ce n'est pas être prompt à les corriger, comme certains le font, mais c'est plutôt être prompt à les encourager et à les aider. Cherchons toujours des sujets d'encouragement. Cela aura un puissant impact dans leur vie et les poussera à faire mieux. J'encourage ceux qui n'ont pas entendu le message de Paul sur la transmission de la foi à l'écouter sur le site internet. Il a prêché sur ce message dimanche dernier. Un petit mot à nous, Église, sur ce sujet. Apprenons à ne pas médire sur les parents quand nous voyons qu'ils ont du mal à tenir leurs enfants pendant le culte. Ils ont plutôt besoin d'énormément d'encouragement car cette responsabilité est tellement prenante. 24 heures sur 24! Et nous ne connaissons pas tout ce que vivent les parents. Leurs combats personnels, leurs blessures du passé, leur éducation. Nous ne connaissons pas leurs difficultés de couple, etc., etc. Combien de fois je pensais mal d'une personne et quand j'ai parlé avec la personne, j'entendais des souffrances. Et je me suis dit, Manu, t'aurais bien fait, t'aurais dû te taire. Ne soyons pas une église qui pointe le doigt sur ceux qui, selon nous, éduquent mal leurs enfants. Soyons plutôt une église qui encourage. Que ce lieu soit un lieu d'encouragement. Un dernier mot aux parents dans un enseignement qui s'intitule « Discipliner l'enfant, pourquoi et comment ?» Jacques Poujol, quelqu'un qui enseigne sur la relation d'aide, dit ceci de très important à garder dans nos esprits. C'est Dieu qui donne aux parents le droit de discipliner leurs enfants, sinon ils n'ont aucun droit sur eux. Dieu leur a confié leurs enfants. C'est devant Dieu qu'ils sont responsables et c'est à lui qu'ils devront rendre des comptes. Nous sommes censés ne pas dominer nos enfants. Dictateur, etc. Tu dois marcher juste et obéir. Mais rappelons-nous ceci, éduquer c'est une chose importante, apprendre au sérieux. Alors prions pour cela et donnons-nous à fond pour nos enfants. Troisième point, alors le message est un peu long ce matin parce que c'est énormément de points que j'aimerais vous donner ce matin. Donc j'essaierai d'être rapide pour ce troisième point, la discipline dans la famille spirituelle. La discipline dans l'Église est un sujet difficile, mal compris et donc difficilement accepté par plusieurs croyants. Pourtant, la Bible en parle plusieurs fois et toujours pour le bien et la bonne santé de l'Église, aussi pour protéger la réputation de Jésus-Christ et de son Église. Je rappelle que nous qui sommes membres de l'Église d'Ozoir, nous nous sommes engagés à vivre plusieurs choses qui sont écrites dans le dépliant « Devenir membre ». Et je vais lire l'un de nos engagements sur le sujet que nous sommes en train d'aborder. Je cite « Je m'engage à vivre dans la loyauté envers les frères et sœurs de la communauté et à m'abstenir de toute médisance. Quand je vois erreur ou péché, je m'efforce de mettre en pratique les principes de Matthieu 18, versets 15 à 17. » Je vais lire ce texte. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainque-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, autres personnes, pour que toute affaire se règle sur les déclarations de deux ou trois personnes, témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Waouh ! Ce que nous dit ce texte est très clair, mais il y a tellement d'églises qui ne l'ont pas appliqué. Il y a tellement de divisions dans l'église, dans les églises en général, parce que plusieurs n'ont pas su respecter ce texte. C'est Jésus-Christ qui le donne. Il a deux préoccupations. Celui qui pêche revienne à Dieu, se repente, change de conduite. Et deuxièmement, que le nombre de personnes impliquées demeure le plus réduit possible en vue de produire la repentance. Jésus veut que l'Église ici se distingue et vive différemment du monde. Alors, dans ce texte, il y a plusieurs étapes, et je vais les donner très vite ici. Si une personne se rend coupable envers moi, ou s'il se rend coupable envers l'Église à cause d'un péché dans lequel il persiste, je dois appliquer la première étape. Lui dire sa faute, le convaincre sans impliquer d'autres personnes. S'il m'écoute, reconnaît ses fautes et s'en détourne, j'ai gagné cette personne. Et j'aime cette citation de Grudem qui dit ceci. En fait, si les membres de l'Église avaient l'habitude de prier les uns pour les autres et de se reprendre les uns les autres en privé et avec douceur quand les premiers signes d'une conduite pécheresse apparaissent, l'Église aurait très peu souvent l'occasion d'avoir recours à une discipline officielle parce que la procédure commencerait et s'achèverait par une conversation entre deux personnes qui ne parviendrait jamais aux oreilles de quelqu'un d'autre. Fin de citation. Malheureusement, les choses ne sont pas ainsi, les amis. Pas toujours ainsi. Pour plusieurs, voire pour tous, il est trop dur de garder pour soi les histoires croustillantes que nous avons entendues ou vues de certaines personnes de l'Église. Pourquoi ? Parce que cela chatouille notre orgueil. Disons la vérité, c'est l'orgueil le problème. Mais Dieu est totalement contre la médisance, les ragots, les calomnies, les commérages et autres choses semblables. Dieu nous appelle à protéger l'unité de l'Église parce que ça a coûté la vie de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que l'unité de l'Église existe, se manifeste, devienne de plus en plus profonde et solide et soit un témoignage fort de son amour dans ce monde. Je dois voir donc la personne qui a péché en privé. Ne pas en parler aux autres. Mais si cette personne ne m'écoute pas, il faudra passer à la deuxième étape. Je dois revenir vers elle avec une ou deux personnes. Là, nous pourrions penser à des personnes d'une certaine maturité, sans doute des responsables de l'Église. Mais si cette personne refuse d'écouter aussi les témoins, il faudra passer à la troisième étape, le dire à l'Église. Mais s'il refuse aussi d'écouter l'Église, il faudra passer à la dernière étape. Toute l'Église considérera cette personne comme un non-croyant, quelqu'un qui, comme si cette personne avait abandonné la foi. Parce qu'une personne croyante est une personne qui est caractérisée par une vie de repentance. Si un croyant ne se repent plus de ses péchés, il prouve par là qu'il y a un gros problème. Pour arriver à ce stade, il faut que l'Église soit convaincue que l'individu est caractérisé par un refus de se repentir, ce qui prend beaucoup de temps. Et on peut être très mal compris dans cette démarche. À cette étape, de manière pratique, on peut dire à la personne qu'elle n'est pas en règle et qu'elle ne devrait pas prendre la Sainte Cène, par exemple, car la Cène implique d'être en communion avec Dieu et avec les frères. Pour un membre d'Église qui a commis une faute grave, il doit être suspendu ou radié de la liste de membres. Dans d'autres cas plus graves, et ça peut arriver avec des personnes qui constituent une véritable menace pour l'Église, qui mettent le bazar dans l'Église, on peut interdire carrément l'accès aux réunions. Et cela peut être utile à cause du fait que telle ou telle personne pourrait mettre un bazar dans l'Église. Cependant, l'Église doit être toujours prête à pardonner aux fautifs et à l'accueillir à bras ouverts s'il manifeste des signes tangibles de repentance. Sur ce sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. En plus, il y a d'autres textes dans la parole de Dieu qui nous donnent d'autres éléments, mais le temps nous manque pour cela. Je vais donc conclure. Vivre la discipline dans la famille de Dieu est très important. Dieu lui-même pratique la discipline. Les croyants aussi doivent la pratiquer dans leur propre vie, dans leur famille de sang et dans leur famille spirituelle, l'Église. Les amis, nous avons tout à gagner de pratiquer la discipline. Pratiquer la discipline, c'est faire plaisir à Dieu, lui rendre toujours plus gloire, grandir en sainteté, ne pas donner accès au diable, protéger la réputation de Jésus-Christ et de son Église, rétablir des relations brisées et permettre à soi et aux autres de trouver toujours notre plus grande joie en Jésus-Christ, en Dieu notre Sauveur. Je vais prier. Dieu notre Père, merci parce que tu es un Dieu qui nous corrige, car tu veux le meilleur pour tes enfants. Aide-nous à pratiquer la discipline avec amour, vérité et sagesse dans notre propre vie, dans notre famille, dans l'Église, pour continuer à vivre la repentance, des profonds changements, le pardon et la réconciliation dans nos relations. Tu vois, j'avais encore beaucoup de choses à dire, je prie que tout ce que j'ai pu dire soit bien compris et que tu continues à œuvrer au sein de ton Église. Nous nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.